Allons, monsieur, soyons sincères. Je veux reprendre mon fils. Je vous promets que je ne lui ferai rien. Je le ramènerai chez moi. Galia lui dit, votre fils demande qu'une chose, c'est qu'on l'écoute. Elle lui dit, eh bien, je l'écouterai. Galia lui demande, vous me promettez, c'est de ne pas le faire opérer ou traiter? Elle lui dit, je vous le promets. Je vous laisse partir pour que vous lui annonciez la nouvelle. Je viendrai le prendre dans une demi-heure. Carlien soupire et lui dit, bien madame. Elle lui dit, allez monsieur, à tout à l'heure chez vous. Bien madame. Et il la quitte. Il a l'impression qu'elle a gagné, mais il ne peut rien faire de plus. Il va retrouver Gilles dans sa chambre. Il s'est allongé, tout habillé sur lui. Galien va vers lui. Gilles lui demande, alors, Galien lui dit, j'ai parlé à ta mère. Elle a été compréhensible et vient te prendre tout à l'heure. Elle m'a promis de ne pas te faire opérer ou soigner. Elle veut bien t'entendre. Gilles lui dit, j'ai pas envie de retourner chez elle. Galien lui répond, tu ne peux rien faire d'autre malheureusement. Elle m'a même menacé de la police parce que je t'avais chez moi et que tu étais mineur. Gilles lui dit, tu vois, elle te force à me rendre parce qu'elle veut faire ce qu'elle veut. Galia lui dit, non, parce que moi aussi, je l'ai menacée de tout raconter à la police. Gilles lui dit, j'espère que tu ne le feras pas. Non, bien sûr, mais il faut qu'elle le croie. Allez, maintenant, range-toi, car elle ne va pas tarder à venir. Nous allons l'attendre au salon. Gilles soupire et se lève. Galia sort de la chambre. Un quart d'heure plus tard, ils sont au salon. Ils entendent la sonnerie de la porte d'entrée. Des pas dans le couloir. La porte d'entrée qui s'est ouverte. Domestique. Monsieur, c'est Madame Graal. Faites-la entrer. Elle entre. Habillée d'une robe jaune, elle s'avance. Galien se lève. Me voici. Je viens le reprendre. » Galien lui dit, « Je vous fais confiance. Pas d'hôpital ni traitement. » Elle lui dit, « Vous pouvez me faire confiance. Tu devrais avoir honte de fuguer comme ça. Tu me fais beaucoup de... Je me fais beaucoup de soucis. Allez, dis au revoir à monsieur et rentrons. »
S'il se lève et va vers Galien
et lui dit, « Au revoir, j'aimerais rester avec toi. » Galien lui dit, « Moi aussi, mais c'est impossible. Mais tu pourras revenir quand tu voudras. C'est vrai ?»« Oui. » Gilles embrasse Galien sur la joue. Galien le prend dans ses bras et lui dit, « Tu es gentil. Allez, va vers ta mère. » Gilles va vers sa mère. Elle lui dit, « Tu ne dis pas bonjour à ta mère ?» Gilles lui dit, « Si, bonjour mère. » Et il l'embrasse. Elle lui dit, « Allons, partons. Dis au revoir à monsieur et pardon pour tous ces tracas. » Galien lui dit, « Ce n'est rien. »
Et il le quitte. Galien se sent seul et triste. Il va à la fenêtre pour les voir partir.
Il les voit rentrer dans une voiture marine. Et la voiture s'éloigne. Dans la voiture se trouvent la mère, Gilles et Danfort. Il ne sait pas pourquoi, mais il a le cafard. Il aimait bien Gilles. Les jours passent, il n'a plus de nouvelles de Gilles et n'ose pas en demander. Un matin, en lisant son journal, il apprend le décès de Gilles, qui est mort à l'hôpital des suites d'un accident. Il est effondré par cette nouvelle et se souvient de l'enfant qui lui a fait confiance, la mère qui lui a promis de ne rien faire contre son fils. Il est furieux et décide d'aller voir la mère. Il se lève pour sortir. La porte est ouverte. C'est Danfort. Danfort lui dit, « Vous allez partir ?»«
Oui. » Danfort voit le journal qui est sur le bureau, à la page de nécrologie.
Il lui dit, « N'y allez pas. »
Galien lui dit, « Si, elle m'avait promis de ne rien faire. »
Danfort lui dit, « Elle a peut-être bien fait pour Noël. »
Galien lui dit furieux, « Comment cela ? C'est horrible ce que vous dites là. »
Danfort lui dit, « Oui, parce que c'est la vérité. Car grâce à elle, grâce à son don, vous allez pouvoir avoir un nouveau laboratoire et sauver des vies.
cela valait bien le sacrifice d'une vie en échange de milliers d'autres. Kalia lui dit, c'est dégoûtant. Je vais justement aller lui dire deux mots à cette garce et lui rendre son argent. L'enfant lui dit, elle n'est plus là, elle est partie. Kalia lui dit, vous l'avez tuée? Non, elle est partie à l'étranger. Elle ne viendra pas de suite. Pas de sitôt. Kalia lui dit, à son retour, je vous rends son argent. Je vous interdis de vous servir de cet argent. L'enfant lui dit, c'est trop tard. Elle a donné le chèque au constructeur. Elle veut que vous donniez pour nom des laboratoires celui de son fils. J'ai dit oui, bien entendu. Kalia lui dit, je vous déteste.
Et il retourne s'asseoir.
L'enfant lui dit, « Justement, je suis venu vous faire signer les papiers officiels de ce projet. » Kalia lui dit, « Sûrement pas. » L'enfant lui dit, « Nous verrons plus tard. »
Et l'enfant sort du bureau.
Kalia effondré pleure Gilles. « Moi au moins, je ne t'oublierai pas. Ta mère est un monstre. Je ne veux plus la revoir. Et je lui renverrai sa somme. » Je vais me renseigner pour savoir où tu es enterré. Il regarde le journal et voit qu'il est enterré au cimetière de Montparnasse, comme un moins corien.
Est allé. La tombe est toute simple, une pierre blanche avec son nom et la date de naissance. Kalia se dit, c'est mieux comme ça, elle est belle et élégante, il n'y a pas de choses de mauvais goût. Il lui a apporté un bouquet de lys blanc et des roses rouges. Je reviendrai te voir. Tu seras toujours dans mon corps, toujours, toujours. Et il s'est éloigné. Passe. Un jour de déprime, il décide d'aller voir ses parents pour quelques jours. Il est heureux de retrouver ses parents. Des gens simples. il dit à son père, les problèmes que j'ai à résoudre ne sont pas gais du tout, et même sordides. Je suis heureux d'être parmi vous. Il embrasse sa mère et lui dit, vous au moins, vous avez des goûts simples. Il va voir Philippe. Il est très heureux de le revoir, ce cher Philippe, qui reste toujours le même.
Ils vont vers la chambre de Philippe. S'asseoir sur le rebord du lit.
Galien lui dit, toutes ces recherches sur la perfection, l'évolution des espèces par l'ADN et autres, c'est dangereux. Ça risque de provoquer des crimes. Philippe lui dit, tu n'as qu'à tout arrêter. Galien lui dit, je ne le peux pas. Ça mettrait des milliers de gens au chômage. Et la France est suffisamment en retard là-dessus. Elle risque de devenir une colonie américaine qui prendrait le monopole de l'alimentation mondiale et de toute la production. Avec les hommes robots et les ordinateurs avec de l'ADN comme mémoire. Philippe lui dit, alors que faire ? Galien lui dit, la machine est en marche, on ne peut rien faire malheureusement, mais l'avenir va être terrible. Philippe lui dit, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Galien lui dit, tu te rends compte qu'une mère sacrifie son fils pour que l'on garde la mémoire de son mari intacte ? Elle a voulu lui faire enlever sa mémoire pour qu'il oublie certaines choses et lui en mettre une autre, en sachant toutes les conséquences que cela allait avoir. Car en lui enlevant sa mémoire, elle faisait en sorte que son fils ne soit plus son fils, ne soit plus rien. L'opération a échoué et il en est mort à 14 ans. Maintenant, pour un oui, pour un non, on peut toucher à la personnalité même de la personne et en faire ce que l'on veut. Plus la peine de tuer. On supprime simplement ce qu'il est, c'est-à-dire lui, en tant qu'humain, seul et unique, pour en faire n'importe quoi, n'importe qui. Pauvre enfant, pauvre Gilles, si gentil, si beau. Avant de le connaître, j'ai rêvé à lui. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai rêvé à lui. Il allait me parler dans mon rêve. Et j'étais très heureux qu'il veuille me parler. Philippe lui dit, mais tu es amoureux, ma parole. Galien lui dit, oui, mais ne sois pas jaloux. C'est devenu qu'une image. Un jour, un après-midi, le téléphone sonne à son bureau. Allô, oui. Il y a un monsieur le duc qui aimerait vous parler. De quoi s'agit-il ? Il me dit que c'est personnel. Bien, faites entrer. Entrez ! C'est la secrétaire qui fait entrer un homme grand, fort, les cheveux gris, avec des lunettes d'écaille et porte un costume gris. Galien se lève.
Venez vous asseoir, monsieur, et dites-moi ce que vous avez à me dire.
Je suis André Leduc et je suis maître de la Ligue franc-maçonnique de France.
Galien lui dit surpris. Je vous écoute, monsieur. L'homme lui dit.
Bien voilà, monsieur. Nous savons ce que vous faites et vos entreprises pour la connaissance de la science et le pouvoir que vous allez avoir. Nous serions très heureux si que vous puissiez appartenir à notre ordre. Nous en serons très flattés.
Galien lui répond. Je vous remercie de cette offre qui me touche beaucoup, mais je ne peux accepter. Le duc lui demande.
Pourquoi, monsieur ? Si je puisse me le permettre.
Galien lui répond. À vous parler franchement, je n'aime pas votre ordre, votre pendantisme, votre façon de vous croire des surhommes et de détenir le savoir.
Le duc lui dit, je ne comprends pas.
Galien lui répond,
vous êtes contre les religions, les dieux, mais vous créez des rythmes et puis vous croyez détenir des secrets, un savoir que les autres hommes ne peuvent pas avoir. Et ce savoir peut vous permettre de dominer le monde. Vous êtes contre la religion et vous avez des rites religieux sans Dieu, mais qui sont tout de même des rites religieux. Je n'aime pas ça.
Le duc lui dit.
D'après vous, nous sommes une espèce de secte despotique qui cherche à s'emparer de la terre. Mais vous voyez que c'est faux. Nous avons défendu, aidé la révolution 1789, la liberté, les droits de l'homme, l'égalité. La bataille contre l'obscurantisme.
Galien lui dit, si vous avez aidé la révolution, c'était pour mettre un homme à vous et vous emparer du pouvoir, pas pour le peuple. Napoléon Ier a été fabriqué de toutes pièces par un de vos condisciples. C'est vous qui avez fait sa légende et l'avez élevé jusqu'au pouvoir suprême.
Le duc lui dit, n'est pas resté longtemps sur le trône.
Galien lui dit, parce que vous l'avez lâché, il ne défendait pas assez vos intérêts.
Le duc lui dit, et nous avons mis un roi.
Galien lui dit, n'importe qui, du moment qu'il éjectait l'autre. Mais vous cherchiez sûrement une autre personne à vous à mettre sur le trône ou la présidence.
Le duc lui dit, et nous avons trouvé.
Sûrement, mais nous ne sommes pas là pour parler d'histoire de France.
Je refuse votre offre parce que je suis un homme libre et que je veux appartenir à aucune association ou autre.
Le duc lui dit, parce que vous croyez libre.
Galien lui dit, je ne veux pas rajouter de chaînes à mes chaînes. C'est mieux comme ça.
Le duc lui dit, c'est plus réaliste. Mais ne croyez pas que je vais vous laisser faire.
Galien lui dit, oui, je sais. Vous pouvez me ruiner ou me mettre dans une horrible affaire, mais faites de toute façon ce que vous voulez. Ce que je fais ne me plaît pas. Je le fais justement, juste par devoir, vis-à-vis de mon personnel.
Le duc lui dit.
Le duc lui dit, nous n'avons plus rien à nous dire. Il ne me reste plus qu'à m'en aller.
Il se lève et dit,
au revoir, monsieur.
Au revoir, monsieur.
Et il se dirige vers la sortie. De toute façon, je ne crois pas à toutes ces histoires pharaoniques et autres. Nous sommes au 21e siècle. La science a beaucoup évolué.
L'homme lui dit, ah, vous croyez, le soleil tourne toujours autour de la terre.
Galien lui dit, oui, mais il n'est plus seul à nous chauffer, donner de la lumière, à mesurer le temps et la longueur. Il est aidé par beaucoup de choses.
Le duc lui dit, aidé, seulement aidé. Au revoir, monsieur.
et il sort.
Les jours passent. Galien devient un peu mélancolique. Il fait de longues marches en Paris, le soir, en se disant qu'il mène une vie bien seule. Que personne n'est aussi seul que lui. Philippe, il le voit quand il vend. Ses parents, c'est la même chose. Et puis, lorsqu'il les voit, il n'a pas le temps de leur parler de ses peines. Et ce qui lui tient vraiment à corps. Comme il reste peu de temps, il ne veut pas les ennuyer avec ses problèmes. Il ne veut pas qu'ils pensent qu'il n'est pas heureux. Cela leur ferait de la peine. Le peu de temps que je reste avec eux, il ne faut pas le gâcher pour ça. Alors il ne dit rien. Il se sent seul. Paris est toujours sous tension. Les gens aimeraient une révolution, mais pour mettre quoi à la place de ce qu'il y a? Si c'est pour faire comme ont fait les 68 arts qui ont tout enlevé et qui n'en ont laissé que du vide, adieu la famille, adieu l'État, adieu le pays, adieu la religion, etc., etc. Et ces vides qui ont été laissés ont été remplis comme on peut, par n'importe quoi, ce qui a créé un surplus de délinquants juvéniles à cause de la carence de la famille. Les jeunes se sont retrouvés seuls, livrés à eux-mêmes, la drogue donnant l'illusion de liberté. La religion a été remplacée par des sectes, copies du bouddhisme ou de l'hindouisme primaire. La morale a été remplacée par le profit et l'égoïsme, l'amour par la liberté sexuelle, la nation par une mondialisation de riches allant d'un endroit de la planète à l'autre avec un chéquier, et les pauvres allant d'un endroit à l'autre pour avoir de quoi vivre. Le travail a été remplacé par le chômage et la précarité, et il est de bon ton d'être contre le travail. Et ceux qui sont contre le travail en ont et quelquefois sont fonctionnaires anards, etc. Tout ceci a multiplié les suicides dus à un mal de vivre d'amour vrai. La drogue pour oublier, s'enivrer, pour se sentir mieux. Le crime, vol, multiplié par pauvreté et aussi manque de morale. Notre société est malade à cause du vide que les aînés lui ont laissé. Ils ont détruit sans rien mettre à la place. Le monde occidental mord de cela et se laisse enivrer par n'importe quoi du moment que n'importe quoi lui fait oublier son vide. Donc les gens se disent que même la révolution n'aboutira qu'à du vide. La solution est peut-être un suicide collectif. C'est peut-être ce qui est en train de se passer, se laisser glisser sans se retenir vers le chaos. Tout accepter, toutes les humiliations, même les demander par conscience de justice qui en réalité est de suicide. La chute de la civilisation antique a peut-être fait pareil. Mais nous, c'est même plus profond qu'eux, car eux, au moins, cherchaient à faire rêver les autres. Et les autres cherchaient à les imiter un temps. Là même pas, c'est le contraire qui se produit. Tout est bon sauf soi. Voilà dans quel état est le moral de la France. Et personne ne cherche à l'aider. Avant, il y a eu Pontois Félicien. Mais il est mort avant d'avoir fini son œuvre. Maintenant, il y a Galien Diap. Mais il est si jeune et plein de bons sentiments. Un vrai chef ne peut avoir de sentiments. Les sentiments sont des barrières qui empêchent d'aller de l'avant. Galien, pour le moment, est faible parce que son corps est gros. Mais il est jeune et peut mûrir. Et puis, il y a Danfort qui surveille et rectifie le tir. Mais est-ce que cela suffira? Et si Galien n'assume pas toute sa tâche, que restera-t-il? En France, personne. Mais heureusement pour le monde occidental, il y a encore l'Amérique du Nord qui, elle, continue à ne pas baisser les bras. Et en plus, elle est là, seule, à faire rêver le monde. Le monde entier rêve de vivre comme elle. Par les films, la télévision, musique, servent de propagande. Malheureusement, l'Amérique a une faille. Elle veut faire cavalier seul. Elle déteste l'Europe parce que l'Europe a une histoire, une culture et que la population blanche américaine vient d'Europe. Mais d'Européens rejetés par l'Europe parce que indésirables, parce que voleurs, prostituées, pauvres, etc., etc. L'origine américaine blanche est entachée par leur origine européenne de paria. Ce qui fait que les Américains veulent se venger de l'Europe en les abaissant et en devenant plus puissants qu'elle. Ceci malheureusement affaiblit le monde occidental. Une désunion et une guerre entre deux Occidents. Cela n'est pas bon. Si l'Europe et l'Amérique étaient unies, le monde occidental serait sauvé par la première économique qui serait l'Amérique et la première culturelle qui serait l'européenne. Mais cela ne se fera jamais car l'Amérique veut être seule. C'est ce qui, nous et elle, vont nous mener à notre perte. Cela a déjà commencé, car pour se venger, se libérer de la culture européenne, ils acceptent d'autres cultures non occidentales. Ce qui fait que l'on soit d'un côté comme de l'autre, c'est la fin. Mais notre génération ne verra pas la fin. Nos enfants, oui, et ils s'en moquent. Car ils sont déjà préparés pour ça, formés culturellement et mentalement. Alors, laisser aller ou voir si l'on ne peut pas changer l'histoire. Peut-être que l'histoire va complètement se transformer avec les nouvelles technologies. Peut-être que le monde sera plus le même. Mais pourquoi n'avons-nous pas le droit de regretter notre civilisation ? alors qu'on en a le droit de regretter d'autres civilisations, comme celle des Incas, qui étaient très loin de nous et qui avaient des rythmes criminels. Galien, lui, ne pense pas à tout ça. Il est jeune et voit la vie d'après ses sentiments. Il rêve d'être aimé et d'avoir une vie calme. Galien, lui, ne pense pas à tout ça. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.